Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gabriel Fortin a été renvoyé devant la cour d'assises pour 3 assassinats et une tentative d'assassinat. Son procès se déroulera à partir du 13 juin 2023. Tant qu'il n'a pas été jugé, il est présumé innocent.
Pour moi, un DRH, c'est quelqu'un qui est d'abord un exécutant. C'est le bras de la direction. Et il est chargé de la gestion du personnel, que ce soit embaucher les gens dont l'entreprise a besoin, faire en sorte que leur travail dans l'entreprise se passe de la meilleure manière possible, et aussi quand il y a des salariés, on va dire, où il y a des problèmes avec eux, essayer de faire en sorte que ces problèmes disparaissent ou éventuellement se séparer du salarié si il n'y a pas d'autre moyen.
En 2010, Gabriel Fortin vient donc de subir un deuxième licenciement, pour les mêmes raisons que le premier. Lui reste persuadé que ce n'est pas de sa faute, qu'il est la victime de la crise économique. Faune restera la dernière ligne de son CV. Gabriel Fortin se retrouve au chômage, il se renferme, il est exclu du monde professionnel et interagit de moins en moins avec l'extérieur.
C'est une période où, moi, fin 2009, j'ai mon enfant.
C'est à ce moment-là que son copain d'école, Jacques, le perd de vue.
Le fait de souhaiter la bonne année tous les ans, mais on ne s'appelle pas au téléphone, on n'est plus en contact par mail et on n'échange pas de longs mails. Donc, je ne sais pas si j'étais au courant qu'il était licencié à ce moment-là. C'est possible que oui, mais disons que les rapports sont plus lointains, c'est moins fort à ce moment-là. Après, je pense qu'il a fait du chômage long, j'imagine. Donc, il a dû cogiter pas mal tomber en dépression, j'imagine, quoi.
À cette période, Gabriel Fortin s'isole derrière son ordinateur et nourrit une rancune tenace à l'égard de ceux qui l'ont écarté du monde de l'entreprise. Tout particulièrement contre les DRH. À commencer par l'équipe des ressources humaines de Francel Emerson, dont il suit les carrières avec attention. Je suis Marion Dubreuil et vous écoutez le troisième épisode de Tueurs de DRH.
Les enquêteurs privilégient ce soir la piste de la vengeance,
la préméditation de celui qu'on surnomme le tueur de DRH.
La justice m'a laissé seul avec une meute de loups.
Leur point commun, une activité dans le monde du travail. Ressources humaines ou aide aux chômeurs.
Ils me prennent pour des cons.
Pour le coup, il a bien pensé les choses.
Perte de chance.
C'était clairement un tir pour tuer.
Carrière détruite.
Une expertise balistique est en cours pour confirmer ou non le lien avec les faits commis en Alsace par celui qu'on surnomme aujourd'hui le tueur de DRH.
Épisode 3. L'obsession.
Gabriel Fortin adopte des comportements obsessionnels. L'ingénieur au chômage note tout. Chaque dépense est consignée, chaque déplacement. En 2012, il quitte la Drôme et revient à Nancy. Son quotidien est rythmé entre la bibliothèque municipale, le club de tir où il se rend une fois par semaine, et son domicile. L'ingénieur au chômage tombe alors dans une véritable compulsion procédurale. Il cherche des interlocuteurs plus haut placés pour obtenir justice. Il envoie des courriers au Conseil supérieur de la magistrature. Il écrit au parquet de Valence. L'objet du mail s'étale sur 4 lignes et c'est toujours le même.
Plainte pour escroquerie en bande organisée et tromperie aggravée et entente entre avocats. Plainte pour abus de confiance, plainte pour violation de domicile, plainte pour entrave à la liberté de travail, plainte pour atteinte à la vie privée, plainte pour atteinte au secret des correspondances.
Et le texte qui suit est copié-collé à la virgule près dans tous ses courriers.
Suite à un litige, j'ai engagé une procédure devant le tribunal. J'ai fait appel à Maître L, un avocat du barreau de Chartres, lequel ne s'est jamais présenté lors des deux audiences pour plaider mon dossier. La présidente du tribunal a indiqué que Maître
Gabriel Fortin reprend le même modèle 3 ans plus tard. Cette fois-ci, il s'adresse au garde des Sceaux, au ministre de l'Intérieur, et il ajoute ce passage.
Depuis plus de 2 ans, tous les contacts que j'ai eus avec différentes entreprises indiquent que je suis victime d'écoute ou autre action illicite pour m'empêcher d'exercer mon métier. Je souhaite que la chancellerie enregistre mes plaintes pour faire cesser ces méthodes de voyous. En outre, j'ai remarqué que des personnes entraient chez moi en mon absence. Je souhaite donc que la chancellerie enregistre ma plainte pour violation de domicile. Je souhaite que la chancellerie enregistre ma plainte contre X pour violation de domicile, vol d'une veste à mon domicile le 5 juin 2015, vol de mon vélo le 26 août 2015. J'ai aussi remarqué que certains de mes courriers avaient été ouverts. J'ai envoyé un courrier au procureur de la République de Valence. À ce jour, soit plus de 7 ans après le début de l'affaire, celle-ci n'est toujours pas réglée.
Pendant plusieurs années, Gabriel Fortin a multiplié les démarches et ce genre de courrier pour tenter d'obtenir réparation. Il n'a jamais eu de réponse. Il l'écrit noir sur blanc dans son carnet de détention.
La justice m'a laissé seul avec une meute de loups.
Gabriel Fortin, qui jusque-là cherchait à obtenir justice, change alors de stratégie. Il décide de se venger. Et c'est d'abord sur les réseaux sociaux que le chômeur sévit. Il cible directement les responsables de son licenciement chez Francel Emerson, tout ça depuis un ordinateur, au milieu de la bibliothèque municipale de Nancy. Je me suis assise à l'un de ces 10 postes, installés en centre-ville, dans une grande salle, aux étagères boisées, aux lamparts nouveaux, à côté des étudiants qui viennent réviser. À défaut de s'attaquer physiquement à ces anciens DRH, Fortin veut entacher leur réputation. Il crée des faux comptes sur des réseaux sociaux professionnels au nom de Bertrand Méchel et Estelle Luce, ses 2 premières victimes. L'obsession de Fortin se niche dans les détails. Il reprend leurs photos officielles. Bertrand Méchel, en costume sombre, cravate bleu clair, lunettes rectangulaires. Le DRH a les cheveux coupés courts, un léger sourire qui découvre une fossette. Estelle Luce, élégante, pose en tailleur noir, porte un carré long, blond. Elle repose son visage sur ses mains, pommettes saillantes. Elle fixe l'objectif de ses grands yeux bleus. Fortin alimente ses faux profils, LinkedIn, Viadeo, et les actualise au gré de leurs évolutions de carrière. Chaque plan social dans des entreprises présentes ou passées est mentionné. Il va jusqu'à créer un faux profil au nom de Bertrand Méchel sur la plateforme Xing, l'équivalent de LinkedIn en Suisse. Il n'hésite pas à reprendre des éléments de sa procédure de licenciement que le DRH a menée chez Francel Emerson pour les travestir.
Quand je n'ose pas aller au prud'homme, j'envoie un stagiaire. Ne règne que par la terreur. Ils ont continué leurs bases œuvres dans notre entreprise.
L'objectif, c'est que la personne soit physiquement hors de l'entreprise. Le reste, aucune importance.
Il a licencié des centaines de personnes sans aucun état d'âme.
Le 8 mars 2018, la diffusion à la télé d'un reportage d'Envoyé spécial consacré à Didier Bill, auteur du livre « DRH, la machine à broyer », renforce ses convictions.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. Ce soir, nous allons donc vous révéler les méthodes expéditives de certaines entreprises.
À l'époque, Didier Bill est un responsable des ressources humaines qui fait la une des journaux. Le DRH repenti, qui a plus d'un millier de licenciements au compteur, dénonce des plans sociaux déguisés. 5 jours après la diffusion du reportage, Gabriel Fortin le mentionne sur Twitter.
Ah, je meurs d'envie de balancer le nom du salopard qui m'a fait licencier aussi façon Didier Bill.
Je me dis qu'il faut absolument que je le rencontre pour savoir s'il était au courant.
Bonjour, monsieur Bill.
Bonjour.
Hop, je vous en prie.
Je vous remercie.
Je n'ai jamais considéré que ce que je faisais, ce que je disais, et je continue à ne pas le considérer, pouvait entraîner une réaction chez un individu. Clairement, est-ce que je pense avoir la moindre responsabilité dans ce qu'a fait cet individu ? Non.
Didier Bill, je l'ai contacté via LinkedIn pour comprendre ce qui a pu fasciner Fortin dans son discours. Et quelques jours après, il a accepté de me rencontrer.
Allez, les ressources humaines sont très, très mal nommées, clairement. Elles ont certainement mérité ce nom à une époque révolue. Mais aujourd'hui, les ressources humaines, qui devraient être un trait d'union entre les salariés et les directions, trait d'union, ça ne veut pas dire prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais c'est être l'avocat des salariés devant les directions et l'avocat des directions devant les salariés. Ils sont le bras armé de la direction, pour effectivement obtenir le meilleur sans se préoccuper du prix à payer. Je ne pense pas que l'on puisse atteindre un poste de directeur en ressources humaines ou ailleurs sans parfois avoir dû s'asseoir sur ses valeurs. Sans parfois, si on reste sur les ressources humaines, avoir dû faire un licenciement auquel on ne croyait pas, c'est-à-dire auquel on pensait qu'il y avait soit peut-être d'autres solutions que le licenciement, soit qu'on ne licenciait pas la bonne personne, soit qu'on aurait pu lui donner une autre chance.
Du coup, je peux pas m'empêcher de demander à Didier Bill si Gabriel Fortin a pu faire l'objet d'un licenciement économique déguisé.
Alors, il n'y a pas besoin de connaître le dossier pour répondre oui. Sans l'ombre d'un doute, c'est factuel. Chaque fois qu'il y a un licenciement, l'individu ensuite s'inscrit normalement à Pôle emploi et il doit fournir un document sur lequel la raison de son licenciement est mentionnée. Pas dans les détails, mais globalement, il y a économique et autre. Quand on regarde les statistiques donc de la DARES, le département statistique du ministère de l'Emploi, pas forcément des gauchistes, qu'est-ce que l'on constate ? Que le nombre de licenciements économiques est en chute vertigineuse depuis 97. C'est-à-dire que les entreprises licencient de moins en moins et pas quelques pourcents. On est aujourd'hui à quasiment plus de licenciements économiques. Donc le nombre de licenciements économiques diminue depuis 97 au point d'aujourd'hui être l'exception. Et le nombre de licenciements pour cause, il augmente. Donc ça ne se voit pas bien à la radio, mais vous avez une courbe qui descend et une autre courbe qui monte. Et de manière vertigineuse. Donc c'est factuel qu'il y a eu une modification dans les pratiques des entreprises qui ont opéré une bascule des licenciements économiques vers des licenciements pour cause. Parce que c'est plus facile, techniquement, ça coûte moins cher, sauf si vous faites rattraper au prud'homme. Donc, est-ce qu'on peut émettre cette hypothèse dans ce cas-là ? Oui, ce n'est absolument pas de la science-fiction.
Les entreprises se reposent ensuite sur Pôle emploi. Évidemment, je suis allée vérifier ces chiffres. Et c'est une tendance qui continue de s'accentuer. En 2017, on compte à peine 2% de licenciements économiques contre 20% dans les années 90. Ils ont été divisés par 10.
Est-ce que ce tragique fait divers a généré cette remise en question ? Non, parce qu'in fine, pour la communauté des ressources humaines, comme pour bon nombre de personnes, ce n'est qu'un fait divers. Tragique, mais un fait divers.
Quelques mois après le mouvement Balance ton port, Gabriel Fortin pense d'abord au hashtag Balance ta boîte, avant de choisir le hashtag Balance ton DRH. Et il continue de citer Didier Bill.
On est nombreux à avoir croisé la roue d'un Didier Bill mercenaire. Pour moi, c'était chez Francel. Ils s'appelaient Bertrand Méchel et Estelle Luce.
Ça y est, Gabriel Fortin a passé un cap. Il cible maintenant publiquement ses futures victimes. Enfin publiquement, mais il reste anonyme. Deux comptes relaient ses accusations, sous les pseudonymes de Enfrène et Aigriline. C'est pas du français, c'est pas non plus de l'allemand ou de l'anglais. j'arrive pas à trouver ce que ces pseudos veulent dire. Le point commun de ces comptes, c'est qu'ils partagent beaucoup de publications qui font référence au mouvement des Gilets jaunes. Fortin mélange tout. Le 13 mars 2018, avec différents hashtags, Enfrène ou Aigriline, publie les noms de Bertrand Méchel, d'Estelle Luce. Il dénonce également la loi travail, le code du travail selon Macron, qui permet le licenciement simplifié et conduit à la précarité. Il fait la même chose sur ce qu'on appelle la framasphère. J'en avais jamais entendu parler avant. C'est un réseau social ouvert, particulièrement apprécié des complotistes, parce qu'il n'est pas adossé à un géant du secteur comme Google ou Facebook. Sur ce réseau social, l'ingénieur au chômage explique qu'Estelle Luce et Bertrand Méchel sont des mercenaires, des gens particulièrement malhonnêtes. Un blog hashtag balance ton DRH recense même tous les faux profils créés. Didier Bill n'avait aucune idée que Gabriel Fortin le citait à l'époque pour justifier sa haine des DRH.
C'est quelqu'un qui était fragile. Il ne manquait que quelque chose pour qu'il passe à l'acte. Dans ce cas-ci, ça a été des licenciements qu'il a très mal vécu. Ça ne se vit pas bien, un licenciement, de toute façon. Mais en aucun cas, les ressources humaines, quelles qu'elles soient, n'auraient pu lui faire quelque chose, ou n'auraient pu faire quelque chose, même un licenciement catastrophique, très violent, n'aurait pu justifier chez un individu équilibré d'en arriver à tuer d'autres êtres.
Au domicile de Fortin, les policiers mettent également la main sur un CV d'Estelle Luce. Il est annoté au stylo, au titre de la qualification « Règlement des litiges et contentieux », Gabriel Fortin précise « prête nom, paravent devant le tribunal des prud'hommes au profit du DRH ». Dans un document intitulé « Adresse Luce », retrouvé dans son ordinateur, Fortin recense l'adresse personnelle d'Estelle Luce, son adresse mail professionnelle, les identités de ses proches, leur lieu de résidence et même jusqu'à l'adresse de l'école de ses filles. À l'époque, Gabriel Fortin suit également le parcours de sa dernière victime, Géraldine Caclin, la DRH de Faune Environnement, qu'il a licenciée en décembre 2009. Fortin la mentionne dans l'agenda que les enquêteurs ont retrouvé dans son sac lors de son interpellation. Devant les enquêteurs, l'époux de Géraldine Caclin se souvient qu'elle avait géré un licenciement compliqué, en binôme avec son prédécesseur, vers 2007-2008. Ce qui colle pas avec le dossier Fortin. Il se rappelle juste qu'elle avait évoqué à l'époque des mails et des courriers menaçants ou insultants sans queue ni tête. Elle s'était sentie en danger au point de mettre son téléphone sur liste rouge. Augustin, son fils, était trop jeune à l'époque pour connaître le détail de ces menaces. Mais il sentait bien que parfois c'était compliqué au travail.
Effectivement, il y a des périodes de l'année pour les DRH, pour la direction et sûrement d'autres services, qui sont un peu plus particulières que les autres, parfois un peu plus tendues, quand il y a des revendications salariales ou qu'il y a des changements importants qui sont menés dans une entreprise. Ça fait pas toujours l'unanimité, donc faut parfois gérer des conflits, et puis c'est aussi une charge de travail supplémentaire. Donc y avait parfois des moments un peu de stress ou de fatigue, mais elle savait que c'était normal et que c'était partie intégrante de son travail, et elle l'acceptait, j'avais l'impression. Ça la stressait parfois. Parfois, elle avait un peu de mal à laisser les problèmes ou les questions en suspens au travail, et elle y réfléchissait pas mal, mais elle essayait de jamais nous en parler. Mais ce qui est certain, c'est que c'était aussi une source de fierté, et quand elle avait réussi à améliorer quelque chose, à résoudre un problème qui pouvait se poser pour certaines personnes, ou que certaines personnes étaient plus heureuses par rapport à telle chose ou telle autre qu'elle ait faite, il y avait vraiment un vrai sentiment de fierté, et elle était heureuse de la gratitude qui pouvait lui manifester.
Augustin vient tout juste de fêter ses 18 ans. C'est la première fois qu'il témoigne de ce qui est arrivé à sa mère. On l'entend, il est à la fois sûr de lui, mais aussi un peu stressé. Alors il bouge sur sa chaise, face au micro. Au moment de l'assassinat de Géraldine Caclin, à l'âge de 53 ans, sa photo a fait le tour des journaux. On découvre une femme mince, aux cheveux châtains, coupés courts, qui fixe l'objectif. Le regard déterminé. Elle porte un haut noir à dentelle et des boucles d'oreilles. Un léger sourire au coin des lèvres.
Je me suis rendu compte que dans la presse ou les reportages qu'il y a pu avoir sur ce qui s'est passé, on parlait de ma mère uniquement comme d'une DRH, ce qu'elle était, mais les journalistes ne savaient pas grand-chose d'autre sur elle parce qu'elle ne laissait pas vraiment filtrer sa vie privée et que personne ne voulait ou n'a eu le courage de parler d'elle, la personne qu'elle était. Et je suis pas le seul à le penser, mais dans ma famille, on s'est dit que c'était dommage, sachant que le procès de son assassin approchait, qu'on ne parle d'elle que comme une DRH et que la femme qui avait derrière, qui endossait ce rôle, elle était un peu occultée.
Toi, comment est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne d'elle ?
Je dirais d'une femme généreuse qui était toujours prête à aider et à s'impliquer pour les autres, qui a toute sa vie aidé ceux qui en avaient besoin et en mettant même elle souvent parfois de côté ses problèmes personnels ou ses propres angoisses pour aider les autres.
Augustin m'a envoyé une autre photo de sa mère. Une photo de famille, en noir et blanc. Sans doute prise à l'occasion d'un baptême. Géraldine Caclin est souriante et serre sa fille contre elle.
C'est vrai qu'on était très proches et je lui parlais de ce qui se passait au lycée, de mes amis, voilà. Je pense que parfois ça devait pas être simple d'arriver à suivre tout ça en même temps en gérant le travail à côté, mais elle a toujours été présente et elle nous a toujours écoutés, ma sœur et moi.
Les trois DRH ciblés ont tous subi des campagnes de diffamation. Ils ont réagi à leur façon. Géraldine Caclin a mis son téléphone sur liste rouge. Estelle Luce a quitté Facebook. Bertrand Méchel a écrit à Viadeo, LinkedIn, Facebook pour faire supprimer ses profils. Certains sont effacés, mais Gabriel Fortin en recrée d'autres par la suite. L'ex-DRH de Francel Emerson, Bertrand Méchel, finit par déposer plainte auprès de la gendarmerie dans le Haut-Rhin en 2020. Il est inquiet de l'impact de ses publications sur un plan professionnel, mais n'imagine pas qui se trouve derrière ces faux comptes. Il pense à un salarié qu'il a licencié, aux vagues de plans sociaux, mais à aucun moment il ne se rappelle de Gabriel Fortin. Bertrand Méchel est tellement excédé qu'il répond en son nom propre le 16 juin 2020 sur Twitter, à l'un des comptes anonymes de Gabriel Fortin.
Les faits que vous reportez sont totalement faux et ne reflètent en rien la réalité. Ce tweet est un fake diffamatoire, au sens juridique du terme.
Cette vengeance méthodique en ligne montre que Gabriel Fortin n'arrive pas à se remettre en question. Il est persuadé d'être victime d'un complot.
Les gens s'arrangeaient pour que je ne sois pas embauché. Ma vie professionnelle est bousillée.
Pendant 10 ans, Gabriel Fortin répond à des centaines d'offres d'emploi. Aucune n'aboutit. Son conseiller Pôle emploi l'incite à explorer d'autres pistes, à s'adapter au marché du travail. Gabriel Fortin se braque. L'agent confie aux enquêteurs qu'il sentait comme un trou noir quand il discutait avec l'ingénieur. Qu'il était confronté à un mur, une pierre. Dans son carnet de détention, Gabriel Fortin écrit
« Gabriel Fortin a été voué aux minima sociaux à cause d'inaction de justice. Tout le monde le savait. Dysfonctionnement de l'État. »
Tueur de DRH est une série originale du podcast L'Affaire en 6 épisodes, écrite par Marion Dubreuil et réalisée par Adrien Leblon pour Paradiso Média.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.